Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 17h30 en temps universel. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington au micro. Nanit Talani, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 26 décembre 2023. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné, dépose sa candidature à la présidentielle. En RDC, le gouvernement interdit une manifestation de l'opposition. Au Nigeria, au moins 160 personnes sont mortes dans des attaques de bandits dans le centre du pays. Nous y reviendrons dans la partie magazine avec le professeur Amoussou Tounduno, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos.
D'une part, il y a la responsabilité des autorités. Il y a aussi une sorte de collaboration avec ces...
Benjamin Netanyahou pose 3 conditions pour la paix. Le Hamas doit être détruit, Gaza démilitarisé et la société palestinienne déradicalisée. N'oubliez pas vos rendez-vous avec l'économie et le sport dans quelques 10 minutes. Mais en attendant, voici le journal. Au Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko a déposé sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024 au Conseil constitutionnel. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Je confirme qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont déposé leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel, a annoncé Ousseynou Ly, responsable de la cellule de communication de l'ancien parti PASTEF. Bassirou Diomaye Faye, lui aussi en prison, est le plan B de ce parti dissous fin juillet. La semaine dernière, le représentant de Sonko a été empêché de récupérer les documents nécessaires à sa candidature à la Direction générale des élections. Ses avocats avaient ensuite annoncé leur intention de déposer la candidature de l'opposant. Mi-décembre, un juge a relancé sa candidature en ordonnant sa réinscription sur les listes électorales, confirmant une décision rendue en octobre par le tribunal de Ziguinchor qui a été cassée par la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel doit annoncer la liste des candidats retenus à la présidentielle le 20 janvier.
Dans le centre du Nigeria, au moins 160 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi et lundi dans plusieurs villages de l'État du Plateau. Le point avec Antoine Roger Bolamba.
Plus de 300 personnes blessées ont été transférées dans les hôpitaux, a affirmé Mandé Kassa, président du conseil du gouvernement de Bokkos. En premier bilan provisoire de la Croix-Rouge locale, faisait état hier de 104 morts. Des groupes armés, localement appelés bandits, ont attaqué plus de 20 villages, incendiant de nombreuses maisons entre samedi soir et lundi matin, a précisé Mandé Kassa, assurant que les attaques étaient bien coordonnées. Au moins 50 personnes ont été tuées dans 4 villages de la circonscription voisine de Barkin-Ladi. Des mesures proactives seront prises par le gouvernement pour freiner les attaques en cours contre des citoyens innocents, a promis Guyane Béré, le porte-parole du gouverneur de l'État du Plateau. Amnesty International estime que les autorités nigérianes ont toujours échoué dans leur tentative de mettre un terme à ces fréquentes attaques dans l'État du Plateau, théâtre depuis plusieurs années de conflits meurtriers entre éleveurs et agriculteurs.
En République démocratique du Congo, le gouvernement interdit une manifestation de l'opposition prévue pour demain afin de protester contre des irrégularités alors que les premiers résultats provisoires donnent le président Félix Tshisekedi en tête. Davantage avec Alexandrine Ollognon.
Le gouvernement a interdit la manifestation, déclarant qu'elle n'avait pas de base légale et visait à saper le processus électoral. Alors que la commission électorale est en train de compiler les résultats. Aucun gouvernement au monde ne peut accepter cela, donc nous ne le laisserons pas faire, a déclaré le vice-premier ministre Peter Kazadi dans une conférence de presse. 5 candidats de l'opposition ont appelé à une manif demain à Kinshasa pour dénoncer des irrégularités. Les organisateurs de cette marche n'ont pas réagi immédiatement à cette interdiction qui pourrait exacerber les tensions autour du scrutin présidentiel. Le candidat Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, avait appelé à l'annulation pure et simple des élections. Lubumbashi, la plus grande ville minière dans le sud du pays, est placée sous haute surveillance policière. La CENI publie à compte-gouttes les résultats de la présidentielle qui place Félix Tshisekedi en tête avec 80% des quelques 2,8 millions de voix sur près de 44 millions d'électeurs.
Des militants du groupe djihadiste des forces démocratiques alliées ont brûlé une maison la nuit dernière dans l'ouest de l'Ouganda, tuant 3 personnes dans l'incendie de leur maison. L'armée et la police poursuivent les assaillants, assure le commissaire résident du district de Kwamungé, Isaiah Biarugaba. L'attaque intervient une semaine après la mort de 10 personnes tuées dans la même région par les ADF affiliés au groupe État islamique. Un tribunal belge a condamné un opposant politique djiboutien en exil, Idriss Awale, à 15 ans de prison pour violence politique et torture après qu'un de ses rivaux politiques, Liban Mustafa Hassan, a été battu et ses yeux arrachés en novembre 2016. Le tribunal a conclu qu'Awale a battu et torturé Hassan pour l'intimider et l'empêcher de continuer à faire la politique. En novembre 2016, un chauffeur de taxi avait trouvé Hassan au bord de la route. Transporté à l'hôpital, il avait survécu, mais avait perdu la vue. En Algérie, les députés exhortent le président Abdelmadjid Tebboune à se présenter pour un second mandat présidentiel. Ce à quoi M. Tebboune a répondu « si Allah me donne suffisamment de santé ». Le président algérien s'est toutefois abstenu de faire une annonce formelle sur l'élection prévue fin 2024. M. Tebboune a été élu en décembre 2019 pour un mandat de 5 ans et peut se présenter pour un second et dernier mandat conformément à la Constitution. En Afrique du Sud, des équipes de secours continuent de rechercher les corps de 10 personnes portées disparues dans des inondations qui ont également fait 6 morts dans la ville de Ladysmith. Des pluies torrentielles se sont abattues dimanche soir sur cette ville de la province du KwaZulu-Natal, emportant des véhicules et bloquant de nombreux résidents chez eux. De nouvelles fortes précipitations sont attendues ce mardi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La guerre entre Israël et le Hamas est entrée ce mardi dans son 80e jour et a déjà causé la mort de plus de 20 000 personnes côté palestinien et plus de 1140 personnes tuées lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Les derniers développements du conflit avec Mouamadou Oumfa.
Selon le ministère de la Santé du Hamas, 241 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans les bombardements israéliens sur Gaza. L'armée israélienne a annoncé mardi avoir frappé plus de 100 cibles du Hamas, dont des entrées de tunnels et des sites militaires utilisés pour attaquer les soldats. La compagnie palestinienne des télécommunications, Paltel, a annoncé une nouvelle coupure des télécommunications dans la bande de Gaza, la 4e depuis le début de la guerre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a posé 3 conditions pour parvenir à la paix à Gaza. Le Hamas doit être détruit, la bande de Gaza doit être démilitarisée et la société palestinienne doit être déradicalisée, a-t-il déclaré au Wall Street Journal. La guerre d'Israël contre le Hamas va durer encore de nombreux mois, a prévenu mardi le chef de l'armée israélienne Herzi Halevi lors d'une conférence de presse télévisée.
La Russie confirme qu'un de ses navires a été endommagé dans une attaque de Kiev en Crimée. L'armée ukrainienne assure avoir détruit ce navire qui transportait, selon elle, des drones de fabrication iranienne utilisés par Moscou. Cette frappe sur un navire russe est saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le gouvernement ukrainien condamne un acte clairement hostile après les frappes américaines menées dans la nuit en Irak en représailles à une attaque de drones lancée par des miliciens alliés à l'Iran. Le gouvernement irakien qualifie ces attaques de violations inacceptables de la souveraineté irakienne, précisant qu'elles ont fait un mort et 18 blessés. Les États-Unis ont mené des frappes en représailles à une attaque de drones lancée lundi par des miliciens alliés à l'Iran qui a blessé 3 soldats américains, ont déclaré des responsables américains. Les députés turcs ont repris ce mardi l'examen du protocole d'adhésion de la Suède à l'OTAN avec l'espoir de le voir approuvé avant le nouvel an en échange d'un engagement américain sur les avions F-16. L'interdiction de plusieurs modèles de la montre connectée d'Apple pour cause de violation de brevet est entrée en vigueur ce mardi aux États-Unis. La Commission américaine du commerce international a recommandé le 27 octobre d'interdire aux États-Unis plusieurs modèles de l'Apple Watch accusés par le fabricant d'appareils médicaux Massimo de copier ses technologies de détection du taux d'oxygène dans le sang. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, voici les dernières nouvelles économiques en Afrique avec Mouamadou Oumfa.
17,9 millions de smartphones ont été vendus en Afrique au troisième trimestre 2023, enregistrant ainsi une croissance de 12% par rapport à la même période en 2022, selon le cabinet d'études de marché Canalys, cité par l'agence Ecofin. Pour 2024, Canalys s'attend à une hausse à un seul chiffre des ventes, estimant que le marché devrait subir l'impact de la dévaluation de plusieurs monnaies, de l'augmentation des taxes à l'importation et des initiatives gouvernementales encourageant la production locale. 2,17 millions de passagers ont transité via l'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal au cours des trois premiers trimestres de 2023, selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal, une croissance de 13% par rapport à la même période en 2022 qui s'explique par un regain de la demande de transport pendant la période des vacances estivales, explique l'ANASIM cité par Jeune Afrique. Le Maroc a annoncé lundi que près d'un million de familles défavorisées allaient recevoir pour la première fois à compter de jeudi une aide directe mensuelle. Les bénéficiaires recevront environ 45 euros par mois, a précisé le Premier ministre Aziz Akanouche lors d'un conseil de gouvernement. La mise en place de ce programme va nécessiter un budget d'environ 2,3 milliards d'euros.
À présent, place au sport et nous accueillons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nanit et bonsoir à tous.
Le sélectionneur de la Mauritanie a publié sa liste de joueurs retenus pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire.
Eh oui, 27 Mourabitoun ont été appelés par Amir Abdou pour cette CAN 2023. On remarque un nouveau visage dans les rangs. Le milieu de terrain de Pau, Oumar Ngom, a 19 ans, il va découvrir cette compétition. El Hadjiba, lui, est de retour en sélection. L'ancien Lensois s'est engagé avec le club mauritanien du FC Nouadhibou. La Mauritanie partage le groupe D avec le Burkina Faso, l'Algérie et l'Angola. Logé à Boaké dans le centre, la CAN est prévue du 13 janvier au 11 février prochain.
La FIFA et la CONMEBOL ne toléreront aucune ingérence étatique dans la crise dans le foot brésilien.
L'Instance mondiale du ballon rond et la Confédération sud-américaine de football mettent en garde contre toute ingérence étatique dans la gestion des fédérations. Elles disent qu'elles n'hésiteront pas à suspendre le Brésil si Ednaldo Rodrigues n'est pas rétabli à la tête de la fédération brésilienne. Le règlement est clair et net. L'intervention de forces externes dans le champ de compétences des fédérations associées n'est en aucun cas permis, prévient une source interne de la FIFA. Le président de la Fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues, a été écarté de ses fonctions le 7 décembre sous décision judiciaire. La justice a confié la gestion de la fédération à un intérimaire, José Perdis, avec pour mandat d'organiser de nouvelles élections. La FIFA et la CONMEBOL ont décidé d'envoyer une mission à Rio de Janeiro qui commencera à travailler le 8 janvier pour tenter de trouver une solution à la crise. Le Brésil dispute actuellement les éliminatoires du Mondial 2026 et doit jouer la Copa América 2024 en juin prochain.
Basketball Yacouba pour terminer avec les résultats de la nuit dernière en NBA.
Les Lakers ont encore chuté, battus par les Celtics 126-115 dans un choc de Noël entre deux franchises historiques de NBA. Malgré les 40 points d'Anthony Davis, les Lakers de LeBron James, 16 points, 9 rebonds, 8 passes décisives, se sont de nouveau inclinés en saison régulière contre Boston. De son côté, Luka Doncic a propulsé les Mavericks vers la victoire 128-114 en inscrivant à lui seul 50 points contre Phoenix. Mais sa performance lui a surtout permis de dépasser les 10 000 points dans sa carrière à 24 ans. Il est le 7e joueur le plus rapide à atteindre ce chiffre. La journée de Noël en NBA a débuté par la victoire de New York 129-122 face aux Bucks de Milwaukee au Madison Square Garden. À Denver, Jamal Murray s'est offert 28 points pour permettre aux Nuggets d'enchaîner avec une 5e victoire 120-114 contre Golden State. Privé du Camerounais Joel Embiid, MVP de la dernière saison, les Sixers, 3e à l'Est, se sont inclinés 119-113 sur le parquet du Heat.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
est à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani toujours avec vous. Maintenant, place à notre page magazine. En République démocratique du Congo, des voix s'élèvent après les scrutins le 20 décembre. Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, a déclaré que ces élections ont été un gigantesque désordre organisé et planifié. Des opposants de l'opposition voulaient organiser demain mercredi une manifestation, mais leur marche a été interdite par les autorités. Antoine Roger Bolamba a joint Jean-Baptiste Ndundu, membre de la société civile de la RDC.
D'après la loi congolaise, le vote dure de 6h à 17h, 11 heures de vote. Alors, quand on commence en retard, on est obligé de tenir les 11 heures. De vote. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que très vite, les agents des bureaux de vote se sont fatigués et parfois ont dû interrompre même les opérations de dépouillement et de vote pour recommencer le lendemain. C'était quand même une irrégularité assez grave. Et puis est venue maintenant toute l'ambiance avec dans les réseaux sociaux des images violentes, des femmes qui se faisaient tabasser, des images de machines à voter ou des dispositifs électroniques de vote que l'on retrouvait dans les domiciles des tiers ou des personnes qui arrivaient avec des bulletins de vote entre leurs mains ou carrément des dispositifs électroniques de vote en pleine route et qui se faisaient interpeller par la population. Ça n'a pas donné une bonne image du processus de vote. On a eu l'impression que c'était un gros désordre par rapport à l'organisation des scrutins le 20 décembre.
Dans cette optique, vous êtes en train de donner raison au cardinal Ambongo qui considère que les élections en République démocratique du Congo étaient pratiquement un gigantesque désordre organisé et planifié.
Bon, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore les conclusions, les rapports de missions d'observation pour essayer de savoir quelle est l'ampleur de ces irrégularités. Mais l'impression qu'on a, c'est que le retard par rapport à l'ouverture des bureaux de vote n'était pas anodin. On a l'impression que un certain nombre de députés, de candidats députés nationaux, de candidats députés provinciaux bénéficient d'avoir le dispositif électronique de vote à disposition pour pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre le vote en leur faveur. Et ça, c'est quand même une fraude grave. Et le plus gros problème aujourd'hui, c'est aussi ce manque de transparence de la Commission électorale nationale indépendante pour donner le nombre de bulletins de vote, le nombre de dispositifs qu'elle avait à disposition de manière à ce qu'on puisse ensuite arriver à une traçabilité de tous ces éléments sensibles du processus électoral. Une autre image qui a un peu aussi perturbé, c'est cette faiblesse de la sécurisation du processus électoral. À plusieurs reprises, on avait l'impression que le déploiement des matériels électoraux, le déploiement des dispositifs électroniques de vote, était sans garde, sans protection de la police nationale, de sorte que la population pouvait facilement atteindre le matériel sensible de vote, jusqu'à manipuler les différents bulletins de vote aussi facilement. Et ça ne donnait pas une très bonne image.
C'était Jean-Baptiste Ndundu, membre de la société civile en République démocratique du Congo.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Au Nigeria, au moins 160 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi et lundi dans plusieurs villages de l'État du Plateau dans le centre du pays. Des groupes armés, localement appelés bandits, ont attaqué plus de 20 villages, incendiant de nombreuses maisons. Yakuba Ouedraogo a joint à Cincinnati, ici aux États-Unis, le professeur Amoussou Tunduno, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos.
Le bilan, ben, c'est tout simplement le reflet de ce qui se passe depuis des années. Parce que tout simplement, quand il y a des massacres de ce genre et personne ne réagit, c'est une invitation à d'autres massacres. Et vous savez que les paysans, très souvent, ils sont pas armés. Alors que les bandits, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'armes qui circulent. Et moi, je suis bien persuadé que, d'une part, il y a l'irresponsabilité des autorités. Il y a aussi une sorte de collaboration avec ces bandits. Parce qu'il est vrai que le Nigeria est un grand pays. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que les gens descendent et qu'ils aient tout le temps pour massacrer. Ils n'ont pas deux ou trois personnes. Des centaines. On n'a pas besoin vraiment d'analyser la question, parce que c'est une question qui remonte à je sais combien d'années. Parce qu'en tout cas, moi, je sais que régulièrement, il y a ces bandits qui arrivent, qui massacrent et qui s'en vont.
Est-ce que ces attaques de la part de personnes dites des bandits sont le soubassement ou encore le prolongement des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans l'état du Plateau?
Là, vous l'avez bien compris, parce que les éleveurs ont besoin, n'est-ce pas, de cultiver. Et quand ils cultivent, n'est-ce pas, les autres arrivent avec le bétail pour tout détruire. Où voulez-vous, là, on a tout ce qu'il faut pour un conflit en permanence. À moins que le gouvernement intervienne, et que les autorités puissent dire, voilà, il faut quand même que les cultivateurs puissent cultiver, sinon il n'y aura rien du tout. Il y a la famine qui menace de toutes parts. Et si on ne fait rien, évidemment, la conclusion, ça s'impose.
Que ce soit le gouvernement de l'actuel président Tinubu ou celui de son prédécesseur, tous parlent de la lutte justement contre l'insécurité. Qu'est-ce que l'armée fait dans tout cela?
L'armée fait ce qu'elle peut. Vous savez, l'armée chez nous, ça vaut ce que ça veut. Parce que on nous a toujours dit que l'armée devrait pouvoir protéger la population, mais il y a beaucoup de malversations au niveau de l'armée. Il y a beaucoup de vols. L'armée, c'est une autre paire de manches. Il est vrai qu'au du temps de Boiry, on n'a pratiquement rien fait. Général qu'il était, il n'a rien prévu pour mettre un terme à ce genre de situation. Et moi, je ne vois pas comment Tinubu, qui n'a même pas fait une séjournée dans les forces armées, comment il va pouvoir résoudre le problème. Bon, mais espérons quand même qu'il y aura une sorte de solution. Mais c'est pas quelque chose qu'on verra du jour au lendemain.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Au Cameroun, la situation des déplacés a été au centre d'une rencontre entre la presse et les responsables du HCR. D'après les statistiques, 485 000 réfugiés vivent au Cameroun. Le pays enregistre aussi plus d'un million de déplacés internes suite à la crise anglophone, aux conflits intercommunautaires et aux exactions de Boko Haram. De Yaoundé, voici le reportage de notre correspondant Emmanuel Jultap.
Selon le HCR, le nombre des personnes déplacées est évalué à plus de 2 millions d'individus au Cameroun. Mais cette année, le HCR a fermé deux bureaux, l'un à Toubouro au nord et l'autre à Boya au sud-ouest. Guillaume-Olivier Bière, représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun.
À Toubouro, par exemple, on a toujours une communauté de 40 000 personnes, mais presque zéro afflux. Ces gens sont quasi autonomes de par eux-mêmes. À Bouer, on s'est dit, on a le plus besoin de nous, c'est plus dans le nord-ouest que dans le sud-ouest. Mais nous fermons nos bureaux, nous n'arrêtons pas les partenariats avec les partenaires.
À Domayo et à Bogo, dans la région de l'extrême nord, deux camps de déplacés internes sont encore fonctionnels. Ces camps accueillent les personnes qui ont fui en 2021 les exactions du conflit entre pêcheurs agriculteurs Mousgoum et des éleveurs arabes. Le retour volontaire de ces déplacés internes préoccupe le HCR. Kimberley Robertson, chef du sous-bureau HCR à Maroua, dans la région de l'extrême nord.
Toute la population qui vivait à Doumaïa, tout le monde a dit on veut retourner. Et la plupart, la majorité de la population de Bogo a dit la même chose. Le gouverneur a dit on va vous accompagner. Aussi, il y avait le sous-préfet et le préfet qui dit oui, la sécurité est là. Et la semaine passée, les Namido de Pousse et les Namido de Gervidic, ils ont invité les représentants de la communauté déplacée, aussi la communauté haute, de faire la prière ensemble. Ils ont parlé de la paix.
Ce conflit a fait plus d'une vingtaine de morts et le HCR propose désormais des activités de cohésion sociale entre les deux communautés. Kimberly Robertson, chef sous-bureau HCR de Maroua, dans la région de l'extrême nord.
Et je pense que c'est ce dialogue-là qu'il faut laisser les gens d'être ensemble et de créer une atmosphère où les difficultés peuvent être discutées, qu'il y a aussi la possibilité de la justice, si jamais, parce que ça, c'est un élément qui est très important.
Le bureau du HCR a connu une diminution de son budget, ce qui a impacté certaines interventions en faveur des personnes déplacées. Olivier Guillaume Bière, représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun.
Tout le monde ne bénéficie pas des soins de santé, il y a des critères. Mais je dirais que ce n'est pas juste une question de financement, c'est aussi une question d'approche. Du HCR qui a changé d'un modèle d'assistance qui avait sa raison d'être à l'époque de l'urgence. C'était le cas ici au Cameroun lors de l'arrivée des Centrafricains et des Nigériens. Nous ne sommes plus dans ce cas de figure plus de 10 ans après.
Environ 354 000 Centrafricains et 121 000 Nigériens sont réfugiés au Cameroun et plus d'un million de Camerounais sont déplacés internes et ont aussi besoin de l'assistance du HCR. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Du Centrafricain Malabar, chemin de réussite que nous mettons un terme à ce journal. C'est donc la fin du monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci à Joselle Mourissin pour la mise en onde avec l'assistance de Carl Sterling à la console. Nanit Talani était à la présentation. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com, sans oublier nos plateformes Facebook, YouTube, X et Instagram. Excellente journée, à très bientôt.